Je remercie Jacques Pain de son brillant exposé et je vais passer tout de suite, il y a peut-être des gens qui ont des questions, des remarques, des provocations, comme j'en ai fait tout à l'heure peut-être.
Oui, allez-y. Oui.
Donc, je ne sais pas qui a quelque chose.
Monsieur le maire, monsieur l'inspecteur, qu'en pensez-vous?
Oui.
Au début de votre intervention, vous avez dit que les problèmes étaient même partout et ça vous arrivait très fort.
Oui.
Ça m'a...
Le problème est le même partout et ça va nous arriver très fort, ce que j'ai dit tout à l'heure repris par monsieur.
C'est dans l'introduction que vous avez dit ça et ça m'a interpellé. Parce que du coup, tout l'exposé qui vient après nous donne des solutions en fin de compte pour affronter le problème, sinon l'éviter. Je ne sais pas trop lequel.
L'éviter, je ne sais pas si on l'évitera, mais le poser tel que, quoi. Parce que je vous dis, je ne veux pas partir sur... Je suis quand même pas mal dans les histoires de violence, hein, mais je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, l'histoire de la favela ou les bidonvilles, où c'est vrai que, bon, quand vous êtes là-dedans, faut partir de ce... Par exemple, les gens qui vous invitent et qui parlent d'école dans ces lieux-là, ils en sont à un stade, mais qui n'est pas si loin d'une autre. Je l'ai vu en Seine-Saint-Denis. Dans le bureau d'improviseur, laisser les armes à la porte. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le bureau d'improviseur du Blanc-Ménil, j'ai vu quand même l'équivalent d'un grand panier comme ça, d'armes, beaucoup d'armes blanches, mais de quelques armes à feu quand même, qui étaient déposées. Tout ça, et je ne plaisante pas, hein, c'est des... il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, mais pas longtemps. Et donc... Effectivement, je disais, donc, je ne veux pas vous faire peur à tout le monde, mais les Kalachnikovs, là, du Brésil, j'ai vu un policier de haut niveau, il n'y a pas longtemps, à Marseille, les bandes de jeunes, 20-25 ans, elles ont des Kalachnikovs parce que la Kalachnikov, maintenant, vaut quelques centaines d'euros en France. Donc, c'est pour ça que je dis que... Là, ce n'est pas le problème de la Kalachnikov, hein, c'est que quand ils l'achètent, dans le cadre d'un trafic de drogue... Ce qu'on voit, il n'y a qu'à aller passer 8 jours au Brésil. Il y a un livre qui vient de sortir, tiens. Benjamin Moignard, il a passé 2 ans au Brésil. Il connaît bien la Rocinha. Il vient de publier, il a eu le prix de la recherche au PUF. Son livre est sorti l'année dernière. Lisez ça, ça s'appelle Brésil-France, une comparaison. Et lui, il explique, il a passé 2 ans avec eux. Il est rentré dans les bandes en disant qu'il était hein, chercheur. Dans les bandes pour voir ce qu'il pensait de tout ça, avec un truc, il fallait y penser, et il fait des tours de magie, lui, il a vécu dans un quartier chaud à Évry, alors il compare Évry à la Rocinha, et vous savez à quoi il arrive comme conclusion? C'est plus violent à Évry qu'à la Rocinha. Je ne plaisante pas, hein, il était avec nous il y a 3 jours, à Nanterre. Sa conclusion, c'est plus violent, parce que, évidemment, c'est maîtrisé d'une autre façon. Par exemple, la violence à l'école, il y en a moins au Brésil qu'ici. Mais pour les raisons que vous soupçonnez. Alors effectivement, la Kalachnikov et le reste, c'est des trucs, même si ça nous arrive, ça nous arrivera sûrement, c'est qu'on va vers une mondialisation extrêmement difficile et en même temps qui porte quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on a ce brassage énorme de nationalités, d'ethnie, de compétences. Et si on travaille à partir de ça, mais en... Comment dire, on garde toujours l'interdit de la violence. Hein, on garde l'interdit de la violence. Mais on ne fait pas de morale. On ne fait pas de morale. C'est-à-dire, bon, ben c'est vrai qu'il est. Je suis absolument contre toute attaque, évidemment, à main armée. Je voyais dans le journal là, qu'il y avait encore une enseignante qui avait été poignardée ce matin, je ne sais pas où, à Toulouse, oui. J'ai vu ça en passant. Bon, il y en a eu, alors j'en ai connu, c'est vrai. Donc ça, ce n'est pas du tout ça que je défends. Je dis que, comme vous le dites, enfin, ce que je voulais dire moi, c'est qu'il faut se mobiliser sur. Nous sommes dans un monde violent. Il faut arrêter. De dire autre chose. Et donc, il faut partir de là. J'avais d'ailleurs, un de mes livres s'appelle « La non-violence par la violence, une voie difficile hein ». C'est ça. Nos techniques à nous, qui passaient pour des techniques un peu fascisantes il y a 30 ans, 25 ans, c'est qu'on allait dans les quartiers difficiles, à Lille ou ailleurs, chercher les plus violents. Bon, on n'y allait pas comme ça. Hein. J'avais tout un aréopage de champions d'arts martiaux de haut niveau avec moi. Et bon, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire d'autre? Non, on leur disait, vous aimez vous battre? Eh bien, allez-y. C'est quand vous voulez, ce soir, minuit, dans l'usine, machin. Il y a tout un groupe qui s'est monté à Lille autour de ça, qui est connu maintenant, qui s'appelle le CAS, le Club d'Action Sportive, qui a été très vite repéré par l'Éducation nationale. Grande peur il y a 25 ans. Et puis quand le recteur père est arrivé à Lille, que j'allais souvent là-bas auprès du recteur et auprès de cette équipe dirigée par Yves Sirner et Jacques Fortin, je peux vous dire que ça a inversé complètement la dynamique. Le recteur et le rectorat ont décidé de s'appuyer sur ce groupe. 150 parmi les gamins les plus violents du triangle Lille-Roubaix-Tourcoing. Ils vont les chercher. Et ils les amènent à passer des diplômes de BAFA, à commencer par des encadrements. Donc, vous voyez, si je prends le noyau dur, service d'ordre, etc., pour à un moment leur réinjecter quelque chose de l'ordre de... Finalement, on est mieux quand c'est plus calme. Donc après tout, tiens, si je reprenais quelque étude ou si je faisais quelque chose. Alors, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça risque de nous arriver beaucoup parce que, ce que vous savez sans doute aussi bien que moi, les sociologues Chauvel, ou les dernières études le montrent bien, la France, les jeunes chez nous en France sont dans un état très problématique quand même. On est le pays d'Europe qui a le moins de débouchés sur l'emploi, qui a le moins de perspectives d'avenir. Et alors, ne parlons pas des cités, tout y est cumulé. Hier, je disais encore ça dans Alternative économique, sur l'analyse de l'Europe aujourd'hui. La France, on a un vrai problème avec les jeunes.
Excusez-moi, je reprends la parole. Parce
que... Oui.
Vous avez fait aussi un rapprochement qui m'a aussi choqué, mais à la fois qui m'a fait réfléchir, c'est comme, entre guillemets, les concentrationnaires. Dans ma tête, j'ai fait un rapprochement avec Radio Wilcoville et ce qui s'est passé au Rwanda. Je vous dis ça parce qu'actuellement, je suis en poste dans un EREA en Anjou, à Angers. J'ai fait un partenariat avec une radio locale. C'était une expérience intéressante. Mais on s'est aperçu aussi des limites de l'expérience, notamment... sur le fait d'écouter des radios dites nationales, genre Énergie, Skyrock, tous ces gros rouleaux compresseurs-là, parce qu'en fin de compte, on n'a pas réussi ce qu'on avait comme ambition, c'est-à-dire leur faire écouter autre chose que du gros rap de merde, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a échoué sur ça. Et je me pose la question... De causes de cet échec, je serais tenté d'accuser le rouleau compresseur.
C'est vrai que c'est difficile, hein, mais... Alors ça, c'est dans... Non, c'est pas publié. En 79, j'ai fait un livre avec deux enseignants du collège Youri Gagarine à Trappes. J'ai suivi le collège pendant 7 ans. En même temps, je suivais un collège à Mantes-la-Jolie, Clémenceau, aussi 7 ans. Et je prends un exemple, un seul, hein. Par exemple, à Clémenceau, il y a une enseignante qui arrive, de musique, hein, une professeure de musique, grande, blonde, aux yeux bleus, avec une origine sur deux générations, je crois, allemande, quelque chose comme ça. Elle avait un petit accent, quelque chose. Et prof de musique, elle arrive en disant « elle veut les faire jouer du clavecin à Mantes-la-Jolie. Hein. Valfouré, le collège est à côté de la foire fouille, enfin bon, bien. Le clavecin. Bon, lui dit, le clavecin, on commence par le clavecin, je ne sais pas où on va aller, mais bon. Et puis, effectivement, il y a eu des accrochages assez vite autour d'elle. Hein. Sauf qu'il y avait une solidarité énorme dans l'équipe. Il y avait, toutes les 5 semaines, on se réunissait 5 heures. C'est moi qui animais, tout le collège était là. Hein. Enfin, tout le personnel. Hein. Quand je dis tout le personnel, du concierge aux enseignants. Hein. En passant par, évidemment, le chef d'établissement, qui était aussi en sciences d'éducation, et l'intendante. Bon, autour d'elle, on a monté un certain nombre de choses, et elle est arrivée à faire du clavecin, mais il a fallu qu'elle passe par certaines musiques, par la radio de Mantes, qui venait de surgir, animée par les jeunes, et le rap, etc. Mais elle est arrivée à son clavecin. Sauf qu'elle a mis 6 mois, quoi. C'est le détour. Mais je veux dire, je pense que c'est possible, et qu'il ne faut pas non plus, je ne suis pas dans le genre, je ne suis pas en train de dire, il faut tout de suite basculer dans le rap ou je ne sais pas quoi, je suis d'accord. Ces radios-là, bon, il y a autre chose à introduire. Mais c'est une culture... Donc, c'est pareil, l'opportunité à saisir et créer le désir du texte. Moi, j'ai connu un boxeur à Mantes, là, un jeune boxeur, hein, qui était un des champions de rap du coin, qui a d'ailleurs fait un disque qui est bien, qui est pas mal, que j'ai. Il a monté un orchestre de rap, mais lui, alors il est venu en sciences d'éducation. J'ai réussi à le faire venir en sciences d'éducation avec des équivalences, des trucs, j'en passe. Il m'a fait un travail fantastique sur le rap, c'est de la boxe. C'est-à-dire les mots, c'est des coups. Alors, comme il avait pigé ça, lui, je l'ai mis en contact avec d'autres, parce que la boxe, c'est des coups, ça veut dire que lui, il avait découvert le plaisir de travailler les mots. Et là, ça y est, on a gagné. Attention, ça n'arrive pas tous les jours. Lui, comme par hasard, maintenant, il est surveillant. Maintenant. Il a réussi sa licence, sa maîtrise, etc. À l'époque, c'était il y a 10 ans. Et lui, il est passé dans ça. Mais c'est vrai qu'il y en a... Alors, ce n'est pas tous les jours. Mais c'est vrai que c'est peut-être par là qu'il faut travailler. Je ne sais pas pourquoi on irait contre la culture. Quand j'étais en Guyane, là, il y a donc pas longtemps, j'ai une thésarde en Guyane, elle travaille sur les écoles du fleuve. Bon, j'ai 3 heures de pirogue à Patou sur le Maroni, je vais avec elle. Bon, je peux vous dire, le portable, ça ne marche pas. Les portables, il n'y en a pas. Il n'y a que la mairie et l'école qui a des ordinateurs. Hein, d'accord ? Les gens, ils n'ont même pas le téléphone. Il y a une télévision, c'est tout. D'accord ? Quelques télés dans la ville, mais il y a une télévision collective, bon, où j'étais dans un truc sur pilotis où on dormait. Bon, si on part, alors c'est les Bushinengue qui viennent du Suriname qui sont dans les écoles, ce sont les mères, c'est matrilinéaire. Les Bushinengue sont matrilinéaires. Ça veut dire que si on s'adresse aux hommes, ils comprennent pas de quoi on leur parle. Donc, faut faire le détour des femmes. Et quand ils ont eu compris, par exemple, qu'il fallait passer par les mères pour qu'elles viennent une fois par semaine à une sorte de conseil d'établissement à Apatou pour parler de la scolarité des enfants, c'était déjà du gagné. Mais si on s'était enfermé dans le « mais non, on y va traditionnellement, on applique les trucs », et de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que les Bushinengue, qui sont les descendants directs des esclaves qui ont été amenés sur toute cette côte-là, tout le long du Maroni, qu'est-ce qu'on va aller leur raconter sur... C'est vrai qu'il ne faut pas retomber là-dedans non plus. Peut-être que quand ils seront à 30 ans et qu'ils seront en France, ils voudront savoir qui étaient les Gaulois. Mais qu'est-ce que, entre nous, on s'en fout un peu. Hein. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais bon. Et alors, j'étais scié parce que j'arrive à Patou, chaleur d'enfer, 40-41. Ils faisaient de la gym par 40-41. Parce que c'était l'heure de, dans une école, ils faisaient de la gym. Et bon, d'accord. Moi, j'aurais pas pu, déjà, j'arrivais à peine à traverser la route. Et... Quand on arrivait dans les écoles, on entendait chanter, on serait cru, c'était comme à Lyon, Marseille ou Lille, hein, quand on n'avait pas vu les élèves. Mais quand ils sortaient dans la cour, qu'est-ce qu'ils parlaient ? J'ai compté, il y avait à peu près 60 langues ou idiomes dans la Guyane. Si vous descendez jusque chez les Amérindiens, rien que les Bushinengue, ils ont au moins 6 langues différentes. Donc j'ai été voir des linguistes qui m'ont dit, bon, tu peux compter entre 50 et 60. Et dans la cour... Plus personne parlait français, évidemment. Sauf que où est le problème ? Ils peuvent très bien parler français et autre chose. Et les coutumes, et pourquoi pas partir de ça ? Et travailler sur les mariages au Maroc ou en Algérie, sur la culture, ce que le mouvement Frenet fait depuis trop longtemps, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore se dire. Et je ne dénie pas la culture, hein, la grande culture, ou comme me disait Snyders il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, parce qu'il est toujours là, notre ami Snyders. Et alors, est-ce qu'on parle encore de Victor Hugo ? Je dis, bon, si tu arrives en pirogue à Patou, tu descends pas en disant, est-ce que vous connaissez Victor Hugo, vous, là-bas ? L'autre, il dit, c'est ce que c'est mon voisin. Et je dis ça en plaisantant, hein, pour arrêter. J'avais vu dans une classe de lycée professionnel, ça a donné une enquête formidable, parce que la prof, elle dit, une copine, elle dit, elle voulait parler de l'écrivain, là, pas Flaubert, Maupassant. Elle parle de Maupassant. Il y en a un qui dit « Qui c'est Maupassant ?» Alors, il y a l'autre qui dit « C'est pas mon voisin. » Enfin, je sais pas, je le connais. Voilà. Elle a sauté sur l'occasion. Elle a dit « Eh ben tiens, on va prendre l'annuaire de Paris. » Et ils sont mis à chercher des Maupassants. Alors, les voilà partis sur les Maupassants, « Qui c'est Maupassant ?» Et de fil en aiguille, elle a réussi à les emmener sur la littérature de Maupassant. Mais si elle avait dit « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Hein, c'était cuit. Vous le savez, ça, vous l'avez vu. Oui.
La violence est plus, je dirais, souterraine, elle est toujours là. Tu sais qu'en France, c'était un pays où on peut discuter les mots.
Oui, on peut. L'attitude m'a. J'ai passé 3 mois au Japon invité à Kyoto, il y a 3 ans. Alors, j'avais déjà bien des idées sur le Japon, hein, puisque je pratique le. j'ai pratiqué longtemps un karaté japonais, je connaissais pas mal de japonais, donc j'avais des idées, mais ceci dit, c'est vrai que c'est dur le système japonais. Puis plus j'étais là-bas, plus je me disais, mais la France, vous savez, Academia, la réussite à tout prix, les compétitions, la concurrence, toute la politique jésuite qui a bouffé, par exemple, ce que les oratoriens auraient pu nous apporter déjà au XVIIe siècle à l'école. Les oratoriens, ce que Rousseau avait compris en partie, c'est-à-dire travailler sur autre chose que sur la compétition. Mais c'est vieux, ça. Ça fait 3 siècles qu'on a choisi, nous, ça. Mais on n'est pas mieux que le Japon. Alors, pour les classes, il paraît, soi-disant, que je suis un expert de la violence, entre guillemets. J'étais dans les tout premiers qui ont travaillé là-dessus. J'ai énormément publié. Mais c'est vrai que... Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faut savoir dans les classes. En France, ça s'est radicalisé, mais pour plusieurs raisons. À partir de 88-90, comme le contrôle des abords des établissements, le contrôle des populations, puis alors à partir de 2000, pire encore... Le contrôle qui a été instauré par la politique actuelle, le contrôle, on va dire, des attitudes, tout ce qu'on sait de l'ordre de la police. Vous savez, quand ils ont commencé, le tournant, ça a été quand Sarkozy a sanctionné le commissaire de Lyon, qu'on connaît bien, parce qu'il jouait au foot, il organisait des matchs de foot, c'est avec les élèves. Ça, c'est un tournant. Pourquoi ? Parce que la radicalisation du contrôle hors les murs, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les chercheurs sont d'accord là-dessus. La violence, c'est... Alors, deux, elle s'est éloignée des murs. Et trois, elle s'est mise dans les classes plus qu'avant. C'est-à-dire que ça a radicalisé les rapports dans les classes, qui restaient le dernier lieu où, par bande ou par, on va dire, concurrence organisée, les phénomènes se radicalisaient plus qu'avant. D'accord ? Alors que, quelques années encore avant, vous aviez tous ces interstices, toutes ces possibilités de... Ce que je disais l'autre jour dans un groupe, conflictualiser la violence. Il ne faut pas aller contre le conflit, il faut le provoquer. Ce n'est pas la violence, la violence, c'est les coups. Les coups viennent à la place des mots. C'est ce qu'on disait il y a 20 ans déjà, 25 ans, nous, dans nos groupes, on avait un groupe qui a été assez connu, centré sur la violence, qui s'appelait le VIRFO, Violence, Recherche et Formation. On a beaucoup publié. C'est nous qui avons monté les premiers stages d'approche physique de la violence, hein, dans, y compris les institutions. C'est-à-dire, là, je parle des années 80, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, alors, parce qu'on allait chercher ça. On allait chercher les lieux ou mettre en place des lieux qui permettaient de passer en conflit ce qui allait devenir de la violence. Dès qu'il y avait un problème dans les classes, quand on était sollicité, ou quand certains qui travaillaient avec nous l'étaient, aller dans la classe, poser le problème, y aller tout de suite. Vous voyez ? Et si ce genre de choses ne s'opère pas, par le resserrement des contrôles qu'il y a autour du système, vous avez là quelque chose qui explose, quoi. Oui. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai pas le temps de l'aborder. Mais après, évidemment, qu'on travaille avec les enfants et les jeunes. Oui, mais vous avez les groupes de non-violence qui se sont mis là-dedans beaucoup. Enfin, je crois qu'il faut qu'on... Je sais pas, oui.
Monsieur le maire de Mayenne... Michel,
non, mais allez-y, allez-y.
Dire quelques mots. Mes chers amis, mon cher Guy, cher René, ce que vous venez d'exposer m'a passionné, m'a beaucoup intéressé, mais je me sens complètement nul en matière de pédagogie. Et je voulais tout simplement aujourd'hui, d'abord, vous remercier tous les deux d'avoir organisé cette journée. Ça me paraît quand même essentiel quand on apporte l'importance et l'intérêt que l'on apporte à cette manifestation, la technique Freinet. Ça me réjouit que ça se passe à Mayenne. Et je suis d'autant plus satisfait que vous aviez su me convaincre de mettre des moyens à votre disposition.
Oui.
Je crois que ça,
bah oui,
c'est l'essentiel.
Bravo.
Parce qu'on n'y connaît rien, mais... Toutefois, lorsqu'on commence à parler pédagogie et commence à faire des liens avec les quartiers, ça commence bigrement à m'intéresser. Parce qu'en fait, c'est là où ça devient complètement concret. Et convaincre la petite bande qui pose des problèmes dans un quartier, c'est tout à fait proche, comme vous avez su le dire. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de dire à titre personnel ce que m'a pu apporter à moi, modestement, la technique Freinet. Lorsqu'on parle de technique Freinet, j'en suis. J'ai eu le plaisir et le grand bonheur, et ça je le dis, ça me fait plaisir de le dire aujourd'hui, devant Guy et René, dans les années 53, 54 et 55, dans un tout petit village du Haut, où on n'était pas très nombreux comme élèves, où vous nous avez porté
Et tu as su, Guy, m'apporter énormément. Je dis Guy, j'étais dans la classe. Et d'abord, un, parce que ça s'adressait à des gens modestes. Nous étions très modestes, tu le sais, Guy. Et mais dans ma campagne profonde en 53, je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes origines. Et je ne dirais pas que c'est une aide directe à la connaissance. Je ne suis pas sûr d'avoir entassé des quantités de connaissances beaucoup plus que les autres. Mais ce que j'ai noté, ce que je n'oublierai jamais, c'est la capacité d'ouverture d'esprit que tu as su me donner au travers de ta technique. Et je crois que c'est là l'essentiel. L'éducation, elle ne se fait pas uniquement à l'école. Elle doit se faire tout au long de la vie. Et je pense qu'on pourrait en discuter à titre personnel, mon déroulement de carrière, il est ce qu'il est, mais je crois que on pourrait en débattre. Et quand on démarre et qu'on finit ses études très très tôt, parce qu'on est de milieu modeste et qu'il faut aller travailler tout simplement, et que l'on peut évoluer grâce à ce qu'on a pu apprendre. Jamais je n'oublierai d'avoir, et je te l'ai dit 100 fois, et je le répète, mais c'est peut-être à répéter tout de même, de donner à quelqu'un une pile de documents et lui dire, tu vois ça, je t'ai préparé quelque chose, tu vas me faire un rapport sur la banque Lo et la monnaie, à 9 ans et demi, 10 ans. Et que c'est quelque chose que vous n'oubliez jamais. Le bossu de la rue Quincampoix m'a marqué pour la vie. En matière d'économie, je me rappellerai toujours, et les cracks financiers m'intéressent. Autre aspect que tu as su me donner, la lutte contre l'esclavage. Scholcher, à 10 ans, je connaissais. Et écoutez, j'ai des enfants quand on a fait des études, mais attendre, il a fallu attendre un certain temps avant qu'ils connaissent Scholcher. Hein. Et il y en a même des universitaires que je rencontre dans mes services, ils ne connaissent pas. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on m'a donné, et tu as su me donner, mon cher Guy, des clés pour pouvoir s'améliorer tout au long de la vie. Et puis, en fait, c'est ça. Et avoir envie, comme vous l'avez su le dire, c'est d'avoir envie, tout simplement. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Voilà. Alors j'en aurais terminé, je dois vous laisser parce qu'à 14h quelque chose, je me permettrai tout simplement d'aller vous saluer à 16h30 au départage de la manifestation. Et puis une nouvelle fois, merci de ce que vous avez fait et de ce que vous faites au quotidien, parce qu'en fait, vous faites un beau métier, mais combien difficile. Voilà. Je te remercie.
Il y a d'autres. Alors.
Ah non, mais c'est important de le dire parce que je crois que moi je me rappelle et je me rappellerai toujours.
Je te remercie.
Voilà. Merci à vous tous.
Bon, on peut. Alors d'ailleurs, le mot de la fin. Vous savez que pédagogie, on vient souvent là-dessus, nous les universitaires, mais pédagogie, ça ne veut pas dire enseigner, c'est accompagner dans l'étymologie.
Voilà. Merci. À tout à l'heure. D'abord, un mot pour les gens qui voudraient déjeuner avec nous. J'ai fait, il y a à Mayenne, un self à la Motte et à l'hyperu. Je le dis tout de suite avant que les gens puissent se lever. Ceux qui voudraient pourraient nous accompagner. Je pense qu'on va nous réserver une salle. Enfin, on va pouvoir nous regrouper tout au moins. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'autre, Michel, tu peux vous voulez dire quelque chose.
Non, non, non.
Bon appétit.
Oui, madame.
Oui, voilà. J'ai trois petits enfants. Et en fait, je suis surprise parce que vous avez dit que les réponses, elles existaient depuis 200 ans. Et j'ai deux enfants qui sont à l'école, à Mayenne. Et j'ai l'impression que c'est que des. Eh bien, des soucis sur. Je comprends pas que dans la pédagogie institutionnelle, ne soit pas plus facile à trouver en fait au quotidien quoi. Enfin, voilà.
En fait,
quelles sont les résistances alors?
Mais oui, il y a les résistances. On disait souvent déjà à l'époque, dans Chronique de l'école caserne, il y a un chapitre sur les instructions officielles. J'avais demandé à un expert des instructions officielles, enseignant, hein, instituteur à l'époque, Max Molla. Et moi, j'ai travaillé les instructions officielles quand je me suis mis à enseigner. Si vous prenez les instructions officielles, vous avez à peu près tout ce que j'ai raconté ce matin. Si vous regardez précisément... Alors, ça s'est resserré avec les problèmes de sécurité, tout ce qu'on connaît depuis 10 ans. Mais dans les instructions fondatrices, dans les textes, vous avez énormément de choses. Encore faut-il les reprendre. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la formation. Comment vous le reprenez, avec qui, sur le terrain, les groupes, etc. Hein, c'est ça la question.
Mais en même temps, on peut dire aussi qu'on est libre de notre pédagogie. Moi, j'ai toujours travaillé en pédagogie depuis le début de ma carrière, dans la villa, et là, actuellement dans un village, à Beaumont-Pierrot, en Mayenne. On ne nous interdit pas de travailler à partir du moment où les programmes sont
alors, 30 enfants dans une classe, est-ce qu'il y a moins
j'ai
de...
J'ai 26, et j'ai 4 niveaux.
26, 4 niveaux, c'est possible.
Ben oui, oui.
Bon, c'est une question de l'individu, l'enseignant individu, il peut travailler comme il a envie. Il faut qu'il ait ce désir.
En collège, parce que j'ai fait du collège aussi, alors là les structures sont telles qu'on est littéralement pieds et poings liés. Et je peux vous dire que le peu qu'on peut faire, c'est vraiment très peu. Et tout est organisé, enfin bon, je préfère ne rien dire de ce que je pense de la manière dont sont traitées les structures du collège. Si,
C'est la structure qui interdit quasiment
le changement de l'organisation.
Dans une classe élémentaire, on va après tout. Ouais, moi, j'ai les enfants
ça,
4 ans.
Ma carrière en lycée, je fais une adaptation, mais on ne peut quand même pas dire que c'est pas possible.
C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et...
Être différent, c'est difficile.
Mais il y en a, c'est vrai qu'il
y en a. Il y a des collèges qui se sont installés en pédagogie freinée.
Dans nos mouvements, il y en a, oui.
Disons que dans les collèges ordinaires, hein, quand on est vraiment. Quand tout est organisé comme on le propose l'administration, c'est très très difficile. Voilà. Et très très quand même très petit par rapport à ce qu'on peut faire. Et je voudrais dire quelque chose de plus quand même, parce que la dame a parlé là tout à l'heure. Je voudrais dire que la pédagogie freinée a quand même transformé l'école. Parce que bien sûr, on n'a pas. Ce qui est peut-être le plus important, qui est l'éthique, qui est la manière de se comporter vis-à-vis des individus, en les reconnaissant dans leur identité, dans leur qualité, bien sûr. Mais néanmoins, il y a de gros progrès qui ont été faits. On voit bien au niveau ne serait-ce que des techniques, quoi. La plupart des techniques qui ont été apportées par le mouvement freiné sont actuellement pratiquées presque quotidiennement dans les classes, quoi. Oui, Muriel.
Moi, je voudrais ajouter que si on ne la trouve pas aussi développée que ça, c'est que la pédagogie freinée, on ne peut pas le nier, c'est un engagement.
Oui.
Hein, ce ne sont pas que des techniques, ce ne sont pas que des pratiques. C'est aussi un engagement profond. Hein, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas plus pratiqué que ça. Et que ça sera encore moins pratiqué quand on va demander autant d'études aux enseignants, y compris dans le premier degré. Là, pour moi, on est en train de casser vraiment les vrais maîtres d'école.
Et d'ailleurs, le livre, on a fait un livre avec 105 témoignages de gens qui avaient pratiqué la pédagogie de freinée. Eh bien, ce qui ressort des 105 témoignages, c'est que les gens qui s'étaient engagés dans la pédagogie freinée disent tous: la pédagogie freinée n'a pas seulement changé mon travail à l'école, ça a changé ma vie. Mmh. Hein? Voilà ce qu'ils disent. Hein? La connaissance de freinée, ce que freinée nous a apporté, c'est un changement de notre façon de voir la vie et de la vivre. Donc l'engagement est total, quoi. Et la famille, on ne pouvait pas vivre la famille de la même façon, après avoir connu freinée, après avoir connu la pédagogie freinée, qu'on la vivait avant. Voilà. Tu voulais dire quelque chose?
Oui. Moi, c'est vrai que la pédagogie freinée, c'est quand même quelque chose qui est très... Donc, je disais que la pédagogie freinée se fait appel à la fois à l'intelligence, à la sensibilité, à l'engagement qu'on vient de voir. Donc, c'est quand même un idéal, véritablement.
Et par rapport à ce qu'on peut observer maintenant dans le comportement des gens dans la société de manière générale, on peut supposer que si la pédagogie Freinet forme des citoyens, véritablement, dans tout le sens du terme, ce qu'on observe actuellement, d'une manière générale, ce n'est pas vraiment le cas. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il y a une carence de l'école, hein, puisque en fait, on a quand même des jeunes, et on débouche, comme vous avez dit tout à l'heure, sur la violence, hein, qui monte quand même d'une manière quand même assez effarante, hein, il faut bien le dire, eh bien, on arrive dans quelque chose qui semble être une impasse. Mais c'est aussi un choix politique, c'est-à-dire mieux vaut avoir des consommateurs bulletins de vote hein, que des gens qui pensent et qui sont capables de parler, de prendre la parole, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment hein, où ils doivent la prendre véritablement. Donc là, je pense que tout ce que vous avez dit, c'est très, très intéressant, très attachant. Il y a encore des gens qui se battent pour ça, ce qui est très bien. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la grande masse baisse les bras hein, devant justement une volonté de politique de casser, en quelque sorte, ce qu'il y a de meilleur dans l'éducation.
Je te remercie. Un petit mot là-dessus, parce que, oui, c'est vrai que vous revenez exactement sur le point de départ que j'avais eu, cette question du politique. Moi, je suis toujours atterré par la façon dont on émascule l'histoire aussi bien des pédagogies que des grands mouvements de pensée. Je vous prends un autre exemple qui n'est pas dans le domaine de la pédagogie. Par exemple, Moreno, qui est un inventeur du sociodrame, du psychodrame, etc., et du sociogramme. Moreno. Mais Lewin, on peut en prendre d'autres. Hein. Quand il est parti aux États-Unis, pourquoi ils se sont réfugiés ? Mais devant le nazisme. Quand Moreno pense sa psychologie sociale, il la pense contre quoi ? Contre le nazisme, évidemment. S'il essaye de comprendre les relations humaines pour pouvoir travailler avec ces relations humaines d'une manière intelligente, c'est très clair dans son bouquin de l'époque. Et son bouquin de l'époque, qu'on a traduit en France, Traité de psychodrame, et le titre américain, c'est 1936, Who Shall Survive ? Qui va survivre ? Qui survivra ? C'est quand même légèrement différent. Hein. Et alors, il faut toujours revenir là-dessus, parce que c'est ça qui fait à la fois la consistance et la vie des concepts. C'est que les concepts, ils s'inventent en situation. Et il y a des concepts qui sont plus près des situations que d'autres. Et Freinet a eu le génie, pour des raisons politiques, avec tous les autres, de trouver les concepts qui fonctionnent. Mais maintenant encore, c'est pour ça que je ne suis jamais complètement désespéré, parce que je pense que nos dirigeants et d'autres en font tellement qu'un jour, ça se retourne contre eux. Par exemple, si vous lisez les journaux internationaux aujourd'hui ou si, quand vous voyagez, le monde entier regarde la France parce qu'il n'y a qu'en France qu'on se casse les patrons, qu'il y a la désobéissance civique. Alors ça, vous passez la frontière, personne ne comprend. En France, ils désobéissent maintenant, il y en a presque 2000 là, dans l'enseignement qui désobéissent. Enfin, des tas de trucs typiquement français, quoi. Eh bien, ça, c'est eux-mêmes qui le produisent. C'est vraiment un effet quasi dialectique, c'est ça qui est passionnant, c'est que moi, je désespère pas, parce qu'évidemment, ça peut donner des trucs plus brutaux. Mais en même temps, ils le savent. Ça peut donner les cités. On a un master à Nanterre qui s'appelle « Cadre d'intervention en terrain sensible ». On l'a démarré il y a 3 ans. Hein. Évidemment, on a toutes les banlieues. Eh bien, les banlieues, qu'est-ce qu'elles viennent faire ? On a étudié, par exemple, tout ce qui s'est passé autour de Clichy. On a fait presque une année d'enseignement sur Clichy en France et les événements. Avec ce master, « Cadre d'intervention en terrain sensible ». Mais ils savent tous ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les jeunes en question, ils ont une conscience mais radicale, aiguë et forte de ce qu'on dit ici. Et par contre, ils sont prêts à passer à l'acte. C'est-à-dire, une grande partie d'entre eux dit, qu'est-ce que tu ferais à notre place ? Ce que dit Chauvel, le sociologue, hein, qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne peut pas durer éternellement. À un moment, effectivement, s'il n'y a pas la conflictualisation, l'éducation des enseignants comme ça, comme le mouvement Freinet, c'est vrai qu'il y a un travail à faire qui continue d'être fait. C'est pour ça que ce n'est pas désespérant. Ça vient presque de force.
Ces jeunes que tu as regardés il y a 20 ans, ils sont devenus quoi adultes ? À l'âge adulte ? Ah ben il y en a.
Est-ce que je peux faire une remarque ?
Allez-y. Oui.
Parce qu'à propos de l'instinct qui peut appliquer, faire sa pédagogie Freinet dans la classe, ça dépend quand même beaucoup de l'ambiance de l'inspecteur de l'inspection académique.
Oui, absolument.
Parce qu'il faut, déjà quand on travaille comme ça, on est sans filet quand même. Hein. Et quand on a des inspecteurs qui arrivent, qui avec les règles et tout, je sais qu'en Normandie, par exemple, il y a eu des moments où ça a été très chaud.
Oui, oui.
Parce qu'il y a des inspecteurs qui... qui venaient, qui démolissaient tout. Et il y avait, les écoles freinées s'est fâchées à un moment donné, parce que quand on voulait montrer une pédagogie qui fonctionnait aux Danois, ou tout ça, c'était eux qui venaient. Par contre, quand ils avaient quelqu'un à démolir, parce qu'il fallait qu'ils récupèrent des notes, des points, ou je ne sais quoi, eh bien, ils allaient dans la campagne démolir un collègue et tout ça. Et c'est ça l'écueil aussi, parce que les gens, c'est bien, on est tout, mais quand on est tout seul et qu'on est aux prises avec un inspecteur, avec l'administration, je ne sais pas comment il faut dire, ça peut décourager les gens aussi. C'est quand même, ça fait passer un aspect grave du problème. À moins que l'ambiance soit bien.
Un mot là-dessus, justement. Dans le département, il y a de nombreux années de ça, hein, je ne sais pas, dans les années 60, hein, on avait fait des propositions, justement, pour modifier ce que pouvait être l'évaluation, la manière de travailler de l'inspection,
oui,
et de l'administration avec les enseignants et en coopération, en réflexion, pour faire avancer les choses positivement, au lieu d'aller chercher à négativer, à écraser les gens sous prétexte qu'ils ne font pas leur travail correctement. C'est pas constater qu'un enseignant, à la limite, constater qu'il ne travaille pas bien, c'est pas faire en sorte qu'on l'écrase davantage, c'est de voir comment, comme l'a dit Jacques Pain tout au long de sa conférence, c'est comment on va faire pour trouver les moyens de l'amener avec un groupe à sortir de ses difficultés pour aller plus loin, plus vite, plus haut. Voilà ce que moi je crois qu'il faut proposer pour que ça avance.